Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à toutes et à tous. Élisée Roubati est devant ce micro. Sporama en 2023. Ça continue de plus belle manière avec le 7e championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Le Maroc, double tenant du titre, n'y participera finalement pas. Conséquence du bras de fer diplomatique entre les deux pays. Plus de détails avec Amine Birou qui est déjà en direct. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
On en parlera aussi avec le doyen Jules Valentin Ngoué en direct de Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
À Kinshasa, en RDC, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amédine Si est lui à Columbus dans l'Ohio. Amédine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, Lawal Din Kosuro, toujours fidèle au poste avec ses analyses pointues. Lawal, bonsoir.
Élisée, bonsoir.
Sporama, c'est parti. L'interrogation quant à la participation du Maroc au Setenchan a pris fin la veille du lancement du tournoi. En effet, la délégation marocaine qui devrait se rendre à Constantine par vol direct n'a jamais reçu l'accord des autorités algériennes, même après les négociations de la CAF. Amine, le double tenant du titre ne défendra finalement pas sa couronne.
Il y avait une seule interrogation. Est-ce que les autorités algériennes sont disposées à accorder leur autorisation pour le vol direct entre Rabat et Constantine? C'était la condition sine qua non posée par la FRMF lors de son comité directeur du 27 décembre dernier. Le Maroc était disposé à venir. Il a préparé une équipe pour la compétition, une sélection U23, en vue de l'aguerrir pour la Coupe d'Afrique qui aura lieu au Royaume chérifien dans le courant de l'année, qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris. On précise aussi que la délégation marocaine était présente à l'aéroport de Rabat-Salé au moment de l'arrivée conjuguée du président de la FIFA et de celui de la CAF. Ils ont pu constater de visu que le Maroc était prêt, qu'il y avait un avion sur le tarmac et qu'il attendait l'autorisation de décoller. Visiblement, il n'y a pas eu de réponse positive de la part des autorités d'Alger. On comprend également les précautions prises par le président de la CAF concernant le respect de la souveraineté algérienne, mais quid du respect du cahier de charge? Quid de l'accord qui a été signé entre la CAF et le comité d'organisation local? Quid de l'accord qui a été signé entre la CAF et le pays hôte? Voilà autant d'interrogations qui nous poussent à estimer que la Confédération africaine de football s'est montrée telle Ponce Pilate. Elle n'a pas voulu se mouiller, n'a pas voulu s'embarquer pour une partie ou pour l'autre. Et visiblement, c'est le football qui est perdant puisque le double tenant du titre ne sera pas de la partie.
C'est l'épilogue d'un long jeu de chat et de la souris, Jules. Une annonce médiatique qui n'aura jamais autant fait parler du chat.
Pour tout dire, Élisée, un jeu obstiné de chat et de la souris qui n'honore aucun des protagonistes, car malgré l'épilogue jugé heureux, les dégâts sont déjà consommés au vu du discrédit irréversible jeté sur l'image d'un football africain pourtant récemment revalorisé au sortir d'une brillante Coupe du Monde. Ce qu'il convient d'assimiler à une véritable prise d'otage révèle un manque de considération pour le continent et son affable président de la CAF qu'on a fait passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comment comprendre que l'Algérie, qui après 30 ans revient au premier plan grâce à l'organisation du CHAN, ait été aussi inflexible? Comment comprendre que le Maroc, qui vient de démontrer que les succès du football d'élite passent par la réussite des paliers inférieurs, comme le CHAN justement, n'ait pas pensé plutôt à mettre de l'eau dans son vin afin de sauver l'essentiel, malgré les différends, comme aux Jeux olympiques, aux Jeux méditerranéens ou panarabes, où ceci ne manque pas? Heureusement, le royaume chérifien, qui avait le plus à perdre, a repris à son compte ce vieux proverbe bambléqué qui veut que c'est celui qui transporte les œufs qui évite la bagarre.
On vient à vous maintenant à Médine. Finalement, la politique a pris le pas sur le jeu.
C'est plus que dommage, Élisée, c'est inadmissible car la politique ne doit jamais prendre le dessus sur le jeu car nous sommes en sport, hein, mais il faut avoir le courage et l'honnêteté de dire que la faute incombe à l'Algérie, hein, car le Maroc a tout fait, le Maroc a fait ce qu'il devait faire pour prendre part à cette 7e édition du CHAN malgré ses problèmes politiques avec l'Algérie. La preuve, les Marocains se sont déplacés, hein, jusqu'à l'aéroport pour prendre leur vol pour se rendre en Algérie. Malheureusement, la délégation marocaine s'est vue, hein, refuser l'autorisation de décoller de la part des autorités algériennes. Donc c'est à la CAF de sévir, car on ne peut pas confier à un pays une organisation comme le CHAN et voir un pays se comporter comme ça. Non, la politique n'est pas le sport. Nous sommes en sport. Il faut respecter les règles du jeu et les Marocains l'ont respecté. Trop, c'est trop. La Confédération africaine de football doit prendre ses responsabilités car ce CHAN ne doit jamais se jouer sans la présence du Maroc Élysée.
Et voilà, Lawal, dommage que le CHAN n'aura pas permis de rapprocher ces deux pays maghrébins.
Non, Élysée, c'est une tristesse que l'on assiste pour des raisons politiques à ce renoncement du Maroc par rapport au CHAN, le double tenant du titre qui ne pourra pas défendre sa couronne. C'est bien triste et je pense que les autorités de la CAF n'ont pas été à la hauteur de la tâche à elle confiée. On ne peut pas comprendre, concevoir que la politique puisse prendre le pas sur le jeu. On voit les États-Unis et l'Iran ont des problème plus important que ce que le Maroc et l'Algérie ont comme problème. Mais les États-Unis et l'Iran se rencontrent au cours du jeu. On oublie les différents politiques pendant 90 minutes et puis le reste après, on continue. Donc il y a un problème à la CAF. Les autorités de la CAF ne sont pas, je ne vais pas dire compétentes, non, mais elles n'ont pas réussi à fédérer les énergies parce que le foot, c'est le fair play, c'est le jeu.
On l'a d'ailleurs vu avant, en handball, ça a obligé à Raymond Manzourou de décaler la CAN de l'Algérie en Égypte.
C'est plus simple, c'est plus pratique, c'est plus pragmatique. Et quand on veut à tout prix foncer, tête baissée, c'est ça, on observe. Et cet échec-là, c'est un échec retentissant qui, fondamentalement, va briser les ailes au CHAN, malheureusement, à Élysée.
Sur le terrain à présent, le pays hôte a bien démarré sa compétition en dominant la Libye 1-0 pour se placer en tête du groupe A devant l'Éthiopie et le Mozambique qui se sont neutralisés 0-0 dans la poule B. C'est le Sénégal qui prend la première place après avoir battu 1-0 la Côte d'Ivoire. Une victoire que savoure son sélectionneur Pape Tiaou.
On sort d'un match très 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 difficile, mais c'est bien parce qu'on sort avec les 3 points. Pour moi, c'est une bonne entente pour entrer dans une compétition. Tous les matchs comptent, donc ça ne veut pas dire qu'on a gagné ce premier match, on va se relâcher. Parce qu'on sait pourquoi on est là. Ça fait 11 ans qu'on ne s'est pas qualifié dans cette compétition. Au-delà, on vient de voir vraiment c'est un niveau très élevé. Je pense qu'il faut continuer à être compétiteur et rester focus sur un objectif qui est très 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 important et surtout rester concentré parce qu'on sait qu'on aura deux autres matchs très 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 difficiles.
Ahmedine Bell entame des Lions locaux.
Tout à fait, Élysée, le Sénégal a réussi son entrée en matière dans la compétition en s'imposant sur la plus petite des marques face à la Côte d'Ivoire grâce à un but de Moussa Ndiaye. Mais les poulains de Pape Tiaou ont souffert avant de venir à bout d'une bonne formation ivoirienne. Pourtant, les Sénégalais ont entamé cette rencontre pied au plancher en dominant les 10 premières minutes en obtenant même 4 corners. Mais la réaction n'a pas tardé du côté ivoirien. Ils se sont créés la meilleure occasion juste avant la pause sur une grosse frappe d'Abdourahmane qui a écrasé le poteau gauche du portier sénégalais Pape Mamadou Sy. Les deux équipes vont se quitter sur ce score vierge. À la reprise, le Sénégal monopolise le cuir et à force d'attaquer, ils obtiendront un pénalty à la 64e minute. Mais le spécialiste maison des balles arrêtées sénégalais, Lamine Camara, verra son tir arrêté par le portier ivoirien. Mais ce n'était que partie remise car Moussa Ndiaye va ouvrir le score à la 77e minute. Un but qui a servi au bonheur des Sénégalais. Avec cette victoire, le Sénégal réussit non seulement son comeback après 12 ans d'absence, mais prend aussi la première place du groupe B avec le nul entre la RD Congo et l'Ouganda, Élysée.
Merci à Medine, un nul blanc qui a d'ailleurs sanctionné cette rencontre. Alors Valdo, les léopards locaux démarrent timidement.
Une entrée timide et peu rassurant pour un lendemain prometteur. Élysée avec une première mi-temps à l'image de ce qu'aura été la préparation du léopard avant l'entame de cette compétition. Beaucoup de déchets techniques dans les chefs de joueurs de la RDC avec des soucis dans la transmission des balles. Sauter des lignes était le refuge des léopards avec tout le temps des ballons rendus à l'adversaire. La montée des Emanga, il faut le dire, hein, en seconde mi-temps, a permis à la RDC de prendre le contrôle du match assorti de quelques phases de jeu intéressantes, mais peu efficaces à l'image de la frappe de Bossou captée net par les gardiens ougandais. Les crânes ont également été dangereux puisqu'ils sont parvenus à toucher le montant gauche de la cage du gardien congolais avec un coup de tête, mais au finish, pas de but de part et d'autre. Léopard et crâne se partagent donc le point du match nul. La RDC doit vite s'armer afin de revenir fort face à la Côte d'Ivoire le 18 janvier prochain.
Voilà, et puis c'est Madagascar qui est le leader du groupe C après sa victoire sur le Ghana 2-1. Cette première journée des matchs de poule prend fin aujourd'hui avec le choc Cameroun-Congo, Lawal. Un duel d'Afrique centrale en cours actuellement.
Oui, Élysée, un duel. Et quand on observe un peu les confrontations entre les deux voisins, on se rend compte qu'il y a un avantage psychologique pour l'un des voisins, le Cameroun notamment, du côté des seniors et du côté des locaux, vu que le foot camerounais a pris une nouvelle dimension aujourd'hui.
Depuis que Samuel Eto'o est là.
Samuel Eto'o est là. Et qu'au Congo, on a quelques petits embrouilles, quelques petits ennuis. On pourrait dire avantage favorable pour le Cameroun, mais comme la balle est ronde pour toutes les deux nations, elles vont jouer leur va-tout. Il est important pour l'un et l'autre pays de faire en sorte de montrer ce qu'il est capable de faire pour dominer son voisin Élysée.
On parle football des clubs à présent avec le tirage au sort du mondial de 2023 qui a lieu au Maroc. Et Amine Birouk, le club hôte, le Wydad de Casablanca, champion d'Afrique, rentrera dans le tournoi au second tour face au Saoudien d'Al Hilal.
Le Wydad n'aura pas la tâche facile face au Hilal d'Arabie Saoudite, une équipe composée avec une ossature de la sélection qui a disputé la dernière Coupe du Monde, qui avait réussi d'ailleurs à vaincre l'Argentine, en plus de joueurs du calibre de l'international nigérien Igalo. Sur le banc de touche se trouve Ramon Diaz, qui a gagné de très nombreux titres en Argentine, mais aussi dans les pays du Golfe. Le Hilal d'Arabie Saoudite a été champion d'Asie en 2021, avec beaucoup de joueurs expérimentés. Ce sera véritablement un test grandeur nature pour le Wydad, qui sera soutenu par son public. Le Wydad qui n'a pas été très convaincant ces derniers temps dans le championnat marocain et qui va devoir élever son niveau de jeu. Le chemin ne sera pas facile pour le club casablancais, puisqu'en cas de victoire face aux champions d'Asie 2021, il serait confronté à Tanger le 7 février à une équipe de Flamengo ambitieuse qui vient de remporter la Copa Libertadores avec des joueurs revanchards tels que le Chilien Vidal. Une équipe de Flamengo qui souhaiterait d'ailleurs retrouver sur le terrain l'équipe du Real Madrid pour une finale rêvée le 11 février prochain à Rabat.
Le vice-champion d'Afrique, le National du Quai, ouvrira le bal en affrontant les Néo-Zélandais d'Auckland City. Jules, l'adversaire est bien à la portée du club égyptien.
Assurément, Élysée, puisque dans la hiérarchie du football mondial des clubs, les formations africaines occupent depuis longtemps le second chapeau après l'Europe et l'Amérique du Sud dans l'ordre de distinction lors des tirages au sort des compétitions, leurs prestations antérieures parlant pour elles. Le tout-puissant Mazembe a bien été finaliste de la Coupe du Monde des clubs en 2010 et avant lui, le National du Caire, justement, était sur le podium. Le Raja de Casablanca, représentant le pays organisateur, a aussi ramené l'Afrique en finale. Pour leur part, la CONCACAF et l'Asie-Pacifique, à laquelle appartient justement l'équipe néo-zélandaise d'Auckland, viennent une case en dessous. À côté de cela, on sait aussi que contrairement aux clubs de l'Afrique subsaharienne, moins réguliers dans les prestations et les résultats, ou moins armés en matière de qualité individuelle, de production collective et de maturité tactique, Les clubs de l'Afrique du Nord, à l'image du Wydad de Casablanca ou du National du Caire, une défaite du National contre le représentant néo-zélandais d'Auckland serait considérée comme une contre-performance, même si le rôle du favori doit aussi savoir se gérer.
Merci Jules. Le vainqueur de ce quart de finale jouera le champion d'Europe, le Real Madrid. Et à Médine, le chemin est encore loin pour le géant du Caire.
Ah oui, Élisée, le chemin est encore loin hein, pour le vice-champion d'Afrique Al Ahly du Caire, car les Égyptiens doivent d'abord écarter les Néo-Zélandais d'Auckland. Je pense que pour ce premier match, il ne doit pas y avoir de problème, car le football égyptien est d'un cran supérieur au football néo-zélandais. Mais comme un match de football n'est jamais gagné d'avance, il faudra prouver la suprématie sur le rectangle vert. Et si jamais les Égyptiens passent, ils pourront aussi négocier l'obstacle américain Seattle. Ça me semble aussi pas du tout difficile, car le football américain, même si ça progresse, le football égyptien est d'un cran supérieur. Mais il faudra encore prouver, prouver sur le terrain. Mais je pense que ces deux adversaires sont à la portée des Égyptiens d'Al Ahly. Ensuite, il faudra réaliser l'exploit face au Real de Madrid en demi-finale. D'ailleurs, ce match, si jamais il aura lieu, ça va ressembler un peu à un combat entre David et Goliath. Mais comme nous sommes en sport et en football, tout reste possible. Élisée.
Maintenant, Valdo, l'Afrique pourrait avoir un représentant non seulement dans le dernier carré, mais aussi en finale, comme ce fut le cas en 2010 et en 2013.
Possible d'avoir un club, soit au dernier carré, et pourquoi pas en finale de cette Coupe du Monde, les clubs Élysée, si cela a déjà été fait. Donc, il y a encore possibilité avec l'un des deux représentants du continent à cet autre rendez-vous du football mondial. Si les parcours des Al Ahly d'Égypte, finaliste de la Ligue des Champions de la CAF, doit aboutir à un face-à-face en demi-finale face au Real Madrid, après avoir, dans la mesure du possible, surmonté Auckland City et Seattle, celui du champion en titre, le Wydad Athletic Club de Casablanca, l'oppose à Al Hilal d'Arabie Saoudite et Flamengo du Brésil, deux adversaires que le club marocain peut bien négocier afin de permettre au club du continent de renouer d'abord avec la finale, le temps de revoir les ambitions de tout un continent à la hausse, c'est-à-dire non seulement jouer la finale, surtout s'offrir les titres, à l'image du cap franchi par la sélection marocaine lors de la dernière Coupe du Monde de football des Nations Élysées.
À noter que cette Coupe du Monde des clubs se déroulera au Maroc du 1er au 11 février prochain. Handball pour finir avec la Coupe du Monde masculine qui se déroule actuellement en Pologne et en Suède. Et l'Égypte signe sa seconde victoire en s'offrant le Maroc 30-19. Victoire synonyme de qualification pour le tour principal. Alors Jules, le double champion d'Afrique en titre rassure pour le moment.
Élisée, l'Égypte tient tout simplement son rang face à un novice marocain venu surtout pour apprendre. C'est plus le score sans appel de 30-19 qui rassure quant aux capacités du champion d'Afrique d'aller loin dans une compétition où il a été récemment classé 4e mondial et tutoie régulièrement de gros cylindrés comme la France, un adversaire potentiel pour la suite du parcours qui a largement surclassé la modeste Arabie Saoudite après avoir dominé le pays hôte polonais. Il s'agit maintenant pour les riverains du Nil de disputer le leadership de la poule face à la solide formation de Croatie, digne héritière de l'école yougoslave aux côtés de la redoutable Slovénie, les États-Unis complétant ce groupe G, somme toute relevée. En fait, dans cette compétition mondiale où l'Égypte doit confirmer sa place actuelle parmi les plus grands, l'aventure ne fait que commencer.
Voilà, par contre, deuxième revers pour le Maroc qui se retrouve en difficulté. Amine, cela compromet ses chances de qualification.
Et le match qu'il fallait gagner, le match qu'il ne fallait absolument pas perdre, n'est pas celui de l'Égypte, mais bien celui des États-Unis vendredi. Les Marocains étaient confrontés à une sélection largement à la portée. Pourtant, beaucoup de ratés en attaque, des brèches énormes en défense ont causé une défaite inattendue sur le score de 28-27. L'équipe ne s'est pas remise du coup du sort et d'ailleurs, elle ne misait nullement sur un résultat positif face à l'Égypte ni face à la Croatie mardi. face aux Égyptiens, quatrième des derniers JO. La défaite était donc prévisible, 30 à 19. L'équipe a essayé en première mi-temps d'endiguer le flot d'attaque égyptienne et ne s'est inclinée que de 4 buts, 13 à 9. Et puis en seconde de période, l'écart s'est creusé petit à petit. Du coup, le Maroc va quitter le tour principal de la compétition et dire qu'il avait une opportunité en or d'y accéder, puisque 3 des 4 équipes présentes pouvaient se qualifier. Visiblement, ce sera le cas pour l'Égypte, la Croatie et aussi le petit poussé américain.
Élimination également de l'Algérie qui s'est inclinée face au Qatar 29 à 24. Tout reste encore possible pour la Tunisie, même en étant battue 31-29 par la Belgique. Mais Valdo, les Elks de Carthage Handballeurs d'Oomu doivent battre le Danemark, double tenant du titre.
Élysée, ça s'annonce très compliqué pour cette sélection tunisienne, surtout après la défaite 31-29 face à la Belgique. Une défaite qui la place dans une position inconfortable avant d'affronter les doubles tenants du titre. La contrainte d'une victoire face au Danemark est une lourde épreuve qu'il va falloir surmonter, quoique sur papier les favoris aient déjà connu. Et ce n'est pas du tout la Tunisie. Ce qu'il faut faire, d'une part, jouer le tout pour le tout et profiter de chaque erreur de l'équipe adverse en évitant d'en commettre. De l'autre, jouer cet adversaire sans tenir compte de son statut au risque de lui accorder beaucoup de respect et surtout faire son jeu en s'appliquant davantage avec la mission de faire douter cette sélection d'entrée. Élysée, c'est ce genre de match qui permet aux différentes sélections de dire que nous avons été à la Coupe du Monde, une compétition de haute facture.
L'Afrique peut toujours compter sur le Cap-Vert qui pourrait rejoindre l'Égypte au second tour. Lawal, ce sera un exploit pour ce petit pays qui n'est qu'à sa deuxième participation à un mondial.
L'espoir est permis, Élysée, et petit pays, c'est vrai, on pourra le dire, de par sa superficie, de par son insularité et tout le reste. Mais en matière de sport, on se rappelle le Cap-Vert face au Cameroun en football. Donc, ils vont forcément mouiller le maillot, forcer le destin pour écrire leur nom, inscrire leur nom au panthéon du handball mondial.
Merci, Lawal. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Oui, rendez-vous pris, Élysée.
Sporama qui s'achève. À lundi, donc.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Wake up, my brother. Wake up, my sister.